médiocre chez les extravertis, surtout s'ils ont tendance à visualiser les choses plutôt qu'à les ressentir sensuellement. Inversement, un autre protocole très connu proposant de se visualiser en train de descendre un escalier à fait d'entrée, marche après marche, de plus en plus profondément en relaxation, convient parfaitement aux personnes visuelles. Cela, par contre, convient beaucoup moins aux personnes auditives pour lesquelles le bruit de la pluie ou de la mer aurait donné de bien meilleurs résultats. Comme on le voit, les protocoles d'induction ou d'approfondissement, malgré leur indéniable poésie et leur puissance d'évocation, tombent à plat 9 fois sur 10 à cause de leur manque de conformité avec les processus mentaux et les modes de perception du sujet. Le relaxologue s'en rend compte dans certains cas extrêmes, par exemple lorsqu'il propose à son patient de se mettre à l'écoute de ses battements de cœur et que cette technique induit plus d'angoisse que de relaxation. Hélas, beaucoup d'autres erreurs stratégiques passent inaperçues, comme par exemple lorsque le protocole impose une logique linéaire à quelqu'un qui a besoin de plus de liberté, ou lorsqu'il laisse des choix à quelqu'un qui souhaite secrètement être plus étroitement encadré. Il fallait donc un chef d'orchestre à tous ces protocoles, par ailleurs excellents. Et il n'en existait pas de meilleur, à mon sens, que Milton Erickson, le grand psychiatre américain qui révolutionna totalement l'hypnose en mettant en œuvre une science de la psychologie infiniment plus élaborée que celle des anciennes recettes de l'hypnose classique. Comment procède l'hypnose classique ? Rappelons en quelques mots comment procède l'hypnose classique. Elle reconnaît globalement 3 grandes méthodes, paternelle, maternelle et participative. La paternelle, la plus employée, c'est « dormez, je le veux ». Le ton est autoritaire et les suggestions directives. Cette méthode fonctionne d'autant mieux que le sujet est d'un naturel soumis. Voilà pourquoi la première astuce des hypnotiseurs de spectacle consiste à chercher dans la salle le spectateur présentant ce type de caractère. Un caractère que l'hypnose classique baptise « hypnotisabilité maximale ». L'hypnotisabilité minimale correspondant, bien sûr, au caractère rebelle. Nous verrons pourquoi, en hypnose ericksonienne, de telles catégories n'existent pas, et pourquoi, en réalité, tout le monde est hypnotisable. La maternelle, comme son nom l'indique, enrobe le sujet dans un cocon de suggestion très douce, usant d'un ton protecteur et induisant un abandon de la volonté personnelle. Curieusement, cette méthode, peut-être parce que plus récente, est moins utilisée que la précédente, alors qu'elle donne des résultats assez satisfaisants à une époque comme la nôtre où tant de gens ont pris l'habitude d'être assistés. Il n'en demeure pas moins qu'elle connaît, elle aussi, des sujets réfractaires, car il existe évidemment pas mal d'individus qui n'ont aucune envie d'être maternés à l'âge adulte. La participative, enfin, procède plutôt par guidage que par technique inductive et semble particulièrement convenir à la mentalité moderne puisqu'elle place l'hypnotiseur et l'hypnotisé sur un plan d'égalité qui fait chaud au cœur de toute personne profondément éprise de liberté, mais fin flop chez toutes les autres, les dépendantes, les soumises, les infériorisées ou les supériorisées, etc. Peut-être penserez-vous qu'en employant la méthode paternelle pour les sujets soumis, en préférant la maternelle pour les assistés et la participative pour les égalitaires, on augmente le taux de réussite. Et vous aurez raison. Mais d'une part, ces 3 catégories sont trop limitées en nombre pour représenter un panel suffisamment large de la population, et d'autre part, elles ne correspondent pas vraiment à des critères caractérologiques spécifiques, comme c'est en revanche le cas pour l'introversion ou l'extraversion, entre autres. De plus, la plupart des accroches de l'hypnose classique est plus proche du rituel que d'une mise en application de la psychologie. Fixer un pendule en mouvement ou la flamme d'une bougie, ou encore écouter une voix grave suggérer que nos paupières se ferment, peut certainement abaisser la vigilance. Mais n'importe qui parvint à induire une fascination identique, voire supérieure, en parlant d'un match, un amateur de football, d'un film, un cinéphile, ou d'amour à une jeune fille en fleurs. La seule différence réside dans la résistance à l'hypnose, que le rituel du pendule ne manque pas de susciter, alors qu'il n'y en a strictement aucune